Il est important de souligner que la région a quand même fait des progrès, mais ces progrès restent insuffisants. Si on regarde la prévention de la transmission verticale du VIH à l'enfant, on peut remarquer que notre région, aujourd'hui, on a encore 50% des femmes enceintes qui ont le VIH et qui n'ont pas assez de traitement. On sait que ces traitements marchent. On sait qu'avec cette stratégie, il y a des pays qui ont déjà été certifiés comme ayant éliminé la transmission verticale du VIH. Donc, notre région doit en faire un peu plus. L'Afrique australe et du Sud a déjà atteint des couvertures allant jusqu'à 90%, c'est-à-dire que 9 femmes sur 10 dans ces régions ont accès au traitement. Dans la nôtre, l'Afrique de l'Ouest et du Centre doit accélérer le pas. Le deuxième indicateur est le plus important pour nous parce qu'il concerne la survie des enfants vivant avec le VIH, c'est le traitement pédiatrique. Aujourd'hui, nous avons malheureusement 4 enfants sur 5 dans notre région qui ne bénéficient pas de traitement ARV et on sait pourquoi. La plupart d'entre une n'a pas été encore diagnostiquée. Le dépistage du VIH chez les enfants est un véritable défi que nous devons adresser. La dernière dimension qui est importante et qui est très préoccupante aussi, c'est la réponse chez les adolescents. Au cours des 6 dernières années, la réponse des adolescents dans notre région montre une stagnation. Le nombre de nouvelles infections dans cette tranche d'âge ne baisse pas. Ça peut être aussi lié à l'effet combiné de la démographie avec, dans la plupart des pays, la population jeune représentant environ 50% de la population. Et si la réponse n'est pas accélérée dans notre région, la tendance actuelle pourrait nous entraîner à gérer une épidémie plus importante dans les prochaines années.
À quoi attribue-t-on le fait que la riposte, d'une façon générale, et dans les domaines d'accès au traitement et du VIH chez les adolescents, soit à la traîne?
C'est important de tenir compte de facteurs auxquels la région fait face. Comme vous le savez, notre région fait face à des défis sécuritaires de différentes natures. Notre région également est une des régions les plus exposées aux catastrophes et aux épidémies. Nous avons eu à gérer récemment une épidémie à Ebola qui a mis en exergue la fragilité des systèmes de santé dans les pays concernés. En parallèle, en corollaire, vous conviendrez avec moi qu'un système de santé fragile ne peut pas permettre également une réponse très, très accélérée à une épidémie comme celle du VIH. Un point important à souligner, c'est le fait que la réponse au VIH dans la plupart des pays est restée longtemps assez verticale. On n'est pas allé rapidement à des approches communautaires pour passer à échelle les interventions. Et ça fait que la couverture géographique, les sites ne sont pas forcément accessibles au plus grand nombre, surtout en milieu rural.
Alors, l'une des tendances préoccupantes, c'est la présence du VIH chez les adolescents qui se maintient au même niveau. Alors, comment explique-t-on le fait que le VIH-SIDA soit si présent parmi les adolescents et que faut-il faire? Quelle réponse faut-il apporter?
C'est une question très, très, très préoccupante, en effet, parce qu'on estime environ 170 le nombre d'adolescents infectés chaque jour dans notre région. 170 chaque jour. Et dans des pays comme le Nigeria ou la RDC, on estime que la poussée démographique ferait de ces pays l'un des plus populaires du monde d'ici à l'horizon 2030 ou 2035. Il est important qu'on s'assure que ceux des adolescents qui sont nés sans VIH puissent être protégés. C'est le plus gros défi. Comment travailler avec les tranches d'âge afin qu'ils grandissent sans VIH? Et pour cela, il faudrait que, de manière substantielle, les investissements pour que les séries de prévention complètes du VIH puissent être mises à la disposition d'abord des filles, surtout des filles, parce qu'elles sont les plus vulnérables. Deuxième chose, c'est la rétention dans le système éducatif. Il faut s'assurer que ce système éducatif soit favorable à l'épanouissement des filles, qu'ils offrent un cadre protecteur et que les filles ne puissent pas se retrouver malheureusement en train de devoir abandonner l'école parce que l'école n'offre pas l'environnement protecteur dont elles ont besoin. Il faut souligner que dans nos régions, l'une des causes importantes de l'abandon scolaire est le mariage précoce. On doit s'y pencher parce que le mariage précoce, avec très souvent des partenaires plus âgés, expose ces jeunes filles à une population adulte qui a une prévalence du VIH plus élevée que la population adolescente. Donc les mariages précoces pourraient également contribuer à augmenter le risque chez ces filles. N'oublions pas l'exploitation sexuelle. Le contexte socio-économique pourrait, dans certains pays, être l'une des causes de vulnérabilité de ces filles. Nous devons travailler afin que les programmes sociaux qui devraient offrir des opportunités, offrir à ces filles la capacité de s'autonomiser assez tôt afin de pouvoir prendre des décisions visant à leur bien-être et à leur protection contre le VIH. Je vais terminer en soulignant qu'il y a de plus en plus, et c'est l'un des points de cette conférence, des approches nouvelles qui permettent aux adolescents et aux adolescentes de pouvoir connaître le statut, parce que l'un des défis qui a toujours été que les services de santé n'étaient pas sensibles aux besoins des adolescents. Et c'est important de travailler pour que ces services soient sensibles aux adolescents. Et c'est surtout important de s'assurer que si les adolescents ont besoin de connaître leur statut, qu'ils puissent le faire par eux-mêmes avec des techniques comme l'autotest.